Eh bien, bienvenue sur les ondes de Radio Béton, une spéciale chroniqueur des poches sous les yeux. Alors, avec un léger retard, vous nous pardonnerez, cette année, l'édition du festival est bigrement perturbée. On devait être sur la plaine de la Gloriette. Nous n'y sommes pas, faute de bottes suffisamment hautes. Nous ne sommes pas dans les bars qui, finalement, n'ont pas voulu de nous. Nous sommes donc en direct des studios de Radio Béton 93.6. Des poches sous les yeux, c'est une émission quotidienne de chronique littéraire de livres de poche à 7h-5, 1h-5 et 6h-5, du lundi au vendredi. Mais c'est aussi une rencontre de chroniqueurs qui, aujourd'hui, se retrouvent autour de la table. Alors, en plus petit nombre que prévu, parce que les aléas du direct de cette année ont aussi frappé nos chroniqueurs. Donc, on a le plaisir de réunir aussi aujourd'hui Warda, Olivier, Jimmy, qui vont nous parler de la thématique de cette année, la thématique du festival qui a mal tourné, comme souvent les savants fous, malheureusement, le font. Savants fous... Fou savant, voilà la thématique qui va nous réunir aujourd'hui et on va commencer par la folie créatrice. Et c'est Warda qui va nous parler de L'homme jasmin, le livre de Unika Zurn. Warda.
Bonjour. Alors oui, je crois que je suis un peu le quota diversité parmi les chroniqueurs, puisque mon livre c'est écrit par une femme et par une folle. Parce que je pense que vous êtes concentrés un peu tous plus sur le côté scientifique et par des auteurs masculins. Donc,
C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais.
Ah, comme quoi. En plus, vous êtes que des garçons, donc c'est bien, ça fait.
N'aie pas peur.
Non, j'ai pas peur. Et donc, Unika Zurn, oui, était allemande. Elle est née en 1916 à Berlin. Elle est venue en France avec Hans Bellmer en 1953. Et sur la fin de sa vie, la pauvre, elle est devenue folle. Elle est schizophrène. Et en fait, L'homme jasmin, c'est un livre en quatre parties. Donc, c'est une narration autobiographique en phrases courte, voilà, donc c'est une traversée de son délire, en fait, elle se raconte à la troisième personne, et donc ce qui est intéressant dans ce livre, à mon avis, c'est que c'est un propos qui est sincère, en fait, c'est pas du tout du chichiteux, c'est pas un artiste qui essaie de faire du fou, c'est vraiment une folle qui écrit, en fait, ses visions, qui partage son ressenti, donc c'est vraiment un paysage mental, je crois, un paysage intérieur, donc elle nous donne ça à voir, et donc... son art, parce qu'elle a, il faut dire aussi qu'elle était, artiste. Enfin, elle avait un côté artiste, puisqu'elle a travaillé avec les surréalistes. Hein, elle est exposée avec des gens comme Breton, Duchamp, Max Ernst ou Man Ray. Et elle, son truc, c'était l'anagramme. Donc, c'est-à-dire qu'elle prenait une phrase et avec les lettres de la phrase, elle en construisait d'autres. Une espèce de recherche d'un sens caché. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça fait très poétique. Sauf que quand on lit L'homme jasmin, on se rend compte que, bah oui, il y a du poétique, mais c'est surtout délirant dans son cas. Parce qu'on est vraiment dans une quête de sens caché. Voilà, et ça vire à l'obsession. En fait, c'est extrêmement angoissant. Et je pense que ce livre est intéressant pour ça, parce qu'il interroge, en fait, l'acte de création, en fait, cette fascination, pardon, un peu malsaine qu'on peut avoir quand on n'est pas fou, vers les fous, en fait, de dire qu'ils ont un espèce de génie incompris. Et en fait, ce qu'elle nous montre, c'est que c'est pas du tout génial d'être fou. Et voilà, je pense qu'avec ce livre, on peut tout à fait... interroger cette frontière entre création et folie.
Mais elle avait donc des moments de lucidité pour retranscrire finalement ses visions.
Voilà. Visiblement, j'y étais pas, donc je ferais du peine à dire.
La schizophrénie, tu peux me définir un petit peu, savoir ce que c'est un petit peu.
Je pense que c'est une maladie mentale, du coup, qui fait qu'il y a des moments où on est délirant, mais vraiment, ça appartient plus. Elle dit par exemple dans ce livre qu'elle a l'impression que quelqu'un habite dans son corps. Donc une idée de dédoublement, et d'ailleurs ce dédoublement on le retrouve dans ce livre, puisqu'elle parle d'elle à la troisième personne, elle dit « elle a vu, elle a fait ». Et donc
et quatre parties dans le livre, ça correspond à différentes phases.
Non, je pense que c'est quatre chapitres, après je pense qu'il faudrait que je le relise très bien en détail, mais je ne voudrais pas que l'auditeur qui voudrait lire ce livre, je voudrais pas gâter son plaisir à trop en dévoiler. Voilà.
Mais elle a quand même mal tourné à la fin.
Oui, elle a mal tourné. Elle s'est suicidée en 70. Hein, c'est important, les dates. Il faut resituer les choses dans leur contexte.
C'est bon.
Donc voilà, oui, c'était une fin tragique.
Très bien. Donc c'est L'homme jasmin. Impression d'un malade mental, parce qu'effectivement...
D'une malade mentale, pardon.
De Unika Zurn, qui est paru chez Gallimard, Collection L'Imaginaire.
Voilà.
Voilà. Et pourquoi finalement ce choix de livre, au-delà de la thématique hein,
Au-delà de la thématique, bah, c'est sûrement parce que le côté fou me parlait plus que le côté savant, peut-être, parce que bon, moi je travaillais en psychiatrie. Et du coup, je crois que j'ai envie aussi de dire aux gens de lire ce que les fous font, de s'intéresser à ce qu'ils produisent en matière d'art, parce que de notre point de vue, c'est de l'art, mais c'est toute la question, est-ce que c'en est vraiment, ou est-ce que c'est notre interprétation cette jonction d'un réel artistique et d'un délire me semble très intéressante.
D'accord, donc on va effectivement essayer d'apprécier cette ligne de crête.
C'est une question de relativité. Ça dépend du plan sur lequel on se place.
N'essaye pas de faire les enchaînements à ma place.
D'accord.
Aujourd'hui, et d'ailleurs, je voudrais appeler l'esprit de Patrick hein, pour qu'il rayonne sur moi et me donne les bonnes vibes pour animer ce direct avec talent. On va donc suivre cette ligne de crête. Hein, certains mathématiciens, effectivement... voilà, s'enferment un peu dans leur science. On va revenir à la thématique et par un autre angle, celui effectivement de la science, pas de science sans mathématiques. Et je vais donner la parole à Jimmy, hein, qui va nous parler d'algèbre de Yann Prado.
D'accord. Alors, algèbre. Algèbre, en fait, c'est un bouquin qui a été écrit par Yann Prado qui retrace un petit peu le parcours pour le moins chaotique d'Alexandre Grothendieck. Bien sûr, vous connaissez tous Alexandre Grothendieck, hein, n'est-ce pas ? Donc, c'est un mathématicien français qui a... on va dire qu'il est français, qui a eu la médaille Fields en 66.
Qu'est-ce que c'est que la médaille Fields,
alors,
Jimmy ?
Vous apprendrez peut-être qu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques.
Et alors, pourquoi il n'y a pas de prix Nobel ?
Peut-être que Monsieur Nobel était réfractaire aux maths, et donc, du coup, il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Ce qui fait que les mathématiciens frustrés qu'il n'y en ait point, ont créé un équivalent qui s'appelle la médaille Fields, qui est un prix très honorable en matière de mathématiques.
Je vais faire juste un aparté. Il me semble que Alfred Nobel, hein, sa femme avait un amant qui était mathématicien.
Ah,
il y a une rumeur selon laquelle, ça a vérifié, hein, rumeur selon laquelle, par dépit amoureux, il aurait décidé qu'il n'y avait pas de prix Nobel de mathématiques pour faire chier les mathématiciens.
J'avais bien capté la même rumeur, je voulais tester Jimmy sur cette connaissance hein, on dirait le voici de l'époque.
Lacunaire, tu vas me dire.
Non, pas du tout, parce que c'est quand même quelque chose dont on se contrefiche finalement.
Oui, mais finalement, c'est une incidence. Voilà.
Ok, alors la médaille Fields.
La médaille Fields, 66. Il y en a d'autres. Hein. En fait, en France, on est assez fort en maths. Hein. On est des forts en maths. On a eu pas mal de médailles Fields. De mémoire, depuis la création de la médaille, 1936, il me semble, il y a à peu près un quart, entre 20 et 25% de médailles décernées à des Français. Ce qui est quand même assez important en regard de la quantité de matheux qu'il y a aux États-Unis, Russie, enfin il y a plein d'autres pays qui ont un potentiel de population et d'université de haut rang. Et la France dégage des matheux de haute volée. Le dernier en date, peut-être pas le dernier en date, mais en 2010, il y a eu Cédric Villani, par exemple, qui a écrit un bouquin justement sur sa course à la médaille Fields, sur ses domaines de recherche, etc. Bon, ça ressemble à... moi, je préfère nettement algèbre. Hein. Voilà. Ça ressemble plus à la recherche d'un thésar, donc il en parle avec des gens qui peuvent comprendre ce dont il parle, mais sinon le profane reste un peu sur sa fin et voilà. Ça m'a pas. Je sais, je saurais pas vous dire si ça m'a plu ou pas. Mais c'est pas le propos.
C'est pas le propos. Donc on est sur Algèbre, élément de la vie d'Alexandre Grothendieck de Yann Prado, paru chez Alia.
Voilà. Donc Alexandre, il a un parcours de vie extrêmement curieux, à la fois un parcours de vie historique et scientifique, du fait que ses parents étaient issus, son père était russe, juif, anarchiste, révolutionnaire, ça fait déjà quand même pas mal. Sa mère était aussi libertaire, etc., bien impliquée dans tous les mouvements révolutionnaires. Donc ils ont transité Donc un passé familial baigné dans la contestation. Sa mère lui apprend à ne pas dire bonjour parce que c'est petit bourgeois. Enfin, il y a un tas de trucs comme ça qui vont construire un petit peu sa personnalité. Et la montée du nazisme a fait qu'ils ont été aussi un petit peu bousculés dans leur vie quotidienne. Alexandre s'est vite retrouvé mis en un petit peu en dans une famille d'accueil chez des gens qui lui ont inculqué des choses, et puis il a navigué comme ça à travers l'histoire, à travers les conflits européens entre autres, d'exil, de camp d'internement, d'école, de maître à penser, et comme ça il s'est réfugié dans un univers mathématique qu'il a découvert un petit peu par lui-même. C'est un petit peu le cas d'Einstein aussi, hein. Il s'est un petit peu forgé par lui-même, quoi. Et donc c'est tout son univers qui est retracé dans ce bouquin, très très bien écrit, ce qui fait que c'est pas chiant du tout, hein. Parce qu'on se dit, ouais, les maths, ça va être super pénible. Mais en fait, non, pas du tout, pas du tout. Il y a une forme littéraire, narrative, qui est très très agréable et qui nous fait suivre le fil de sa vie et de son parcours. Et de tout ce qui va autour, qui va enrichir tout cet univers de manière tout à fait plaisante. Je reprends mon souffle.
Vas-y. Ah bah les maths, voilà. Ça fait peur. Hein.
Des fois, ça fait peur. Mais il y a des trucs, des fois, c'est... Bon, par exemple, sur des publications, il y a quand même des trucs qui sont, je trouve, assez poétiques. Théorie homologique des variétés algébriques abstraites. C'est beau, non?
On dirait un haïku.
Presque, presque. Et alors oui, parce que c'est un garçon qui était assez fort aux échecs, et qui composait aussi des poèmes, qui était assez branché sur la poésie. Alors lui, il était multilangue, hein, parce qu'il parlait russe, l'allemand, le français, l'anglais, enfin c'était une tête, quoi, une tête. Mais il y a c'est aussi un personnage qui avait des facettes un petit peu curieuses, qui étaient donc... par exemple, c'est un garçon qui dormait par terre. Voilà. Il dormait pas dans un lit, il dormait par terre. Éventuellement sur une porte dégondée, mais voilà, quoi. Donc il y a, et je crois qu'il se promenait pas mal en sandales aussi. Okay. C'est un petit peu comme Mark Zuckerberg, Facebook.
Notre époque, alors.
Notre époque, voilà, exactement. Voilà. Un peu baba, ouais, mais pas tout à fait quand même, ouais.
Un peu avant l'heure. Donc merci, Jimmy, pour ces éléments de la vie d'Alexandre Grothendieck, donc Algèbre, hein, de Yann Prado, paru chez Alia. On va,
Dire aussi qu'Alia, c'est une très belle collection, hein. J'incite tous les auditeurs
très beaux objets
à se pencher sur leur catalogue, parce qu'il y a vraiment des choses, là c'est un petit peu technique peut-être, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas, et c'est une très très jolie collection, ça vaut le coup de jeter un œil dedans.
Donc on va faire notre première pause musicale avec The Shoes, donc le groupe Rémois qui va nous emmener dans son Vortex of Love.
Was it last year or was it the year before last? It's so hard to tell. Time it gets tangled in the past. Tell me what you need to know. If you want it, if you want it, tell me what you need to know. You free. Set you free. To sympathize, and I don't expect for you to understand, but I'm hoping that your heart don't fail me yet, hoping that your heart don't fail me now. But if you want it, if you want it, go ahead and spit it out. If you want it, if you want it, come set you free. Set you free.
De retour sur les ondes de Radio Béton 93.6 avec les chroniqueurs des poches sous les yeux sur la thématique savant fou, fou savant. Nous allons laisser la parole à Jimmy qui va nous parler d'un un mec que vous connaissez peut-être, sa photo en noir et blanc avec son pull tricoté main, sa moustache grise. Et il nous tire la langue de façon effrontée. Nous allons parler de relativité restreinte et générale. Jimmy, parle-nous d'Albert Einstein.
Alors cette photo, justement, sur laquelle il tire la langue, c'est qu'il a un petit peu était un petit peu agacé d'être pris en photo à tort et à travers. Et un jour, il était un petit peu énervé, il s'est retourné, il a tiré la langue. Et du coup, cette photo-là est restée dans la postérité. Enfin, tout le monde la connaît, quoi.
Elle est passée à la postérité.
À la postérité, voilà, exactement. Alors, je vais prendre l'angle d'Einstein sous l'angle de son fils. Parce qu'en fait, il avait un fils, il a eu plusieurs enfants, mais
Franck ?
Non, Edouard.
Edouard.
Il avait un fils qui était schizophrène et il définissait son fils comme le seul problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Il y a un bouquin qui retrace la vie de son fils, écrit par Laurent Sexic chez Flammarion, le cas Edouard Einstein. Qui retrace tout le parcours de la vie de son fils avec des apartés où justement Edouard parle de lui, en fait de lui avec un S, parce qu'il parle de lui mais à la troisième personne du singulier, pour évoquer sa schizophrénie galopante. Il faut savoir que tout ça, ça se passe entre deux guerres. Et après, puisqu'il est mort en 55, il me semble, non 65, je sais plus. Et donc il a bénéficié de tous les remèdes de choc de pointe de l'époque, à savoir les électrochocs, les comas hypoglycémiques, enfin bon, la grosse artillerie, quoi. Ce qui n'a pas dû beaucoup l'aider, finalement, je pense.
Et quel rapport avec la relativité, Jimmy ?
Alors, justement, la relativité, c'était le rapport, justement j'en parlais tout à l'heure, savoir qui est fou, qui ne l'est pas, par rapport à quoi on se place, et tout se tient là, en fait. Et puis, c'était une manière d'aborder le thème fou, savant, savant, fou. Einstein, il n'était pas frappadingue, hein. Il a une petite dyslexie, voilà, ce qui a posé quelques problèmes à l'école au début de sa vie scolaire. Et pour passer ses diplômes, et aussi à Zurich, puisqu'il avait beaucoup de mal avec l'autorité professorale, et il n'a pu rentrer à l'école de Zurich que parce qu'il s'était fait une prépa un petit peu en solo, où l'institut dans lequel il était lui laissait un petit peu faire son truc, sa prépa tout seul, et donc il l'a fait comme
ça. Mais toi, Jimmy, tu ne savais pas que tu étais un physicien de haut niveau pour appréhender une lecture comme ça ?
Eh bien, pas du tout, absolument pas. Je ne suis pas un physicien de haut niveau, d'ailleurs j'ai un bac B. Tu vois, ça n'a rien de scientifique. Hein.
Alors, ça n'existe mais... pour les plus jeunes auditeurs, ça n'existe pas.
Ouais, je suis un dinosaure de la vie scolaire, certes. Alors, bah, c'est l'équivalent de ES maintenant, hein, c'est ça. Hein.
Ok, bah, écoutez, ouais, le sous-titre sera apprécié.
Voilà, et donc je remercie grandement et je rends hommage à mon prof de philo en 1986. J'ai eu mon bac en 86. Hein. C'est dire comme je suis vieux. Hein. Donc, mon prof de philo, monsieur Valla, qui nous disait, écoutez, franchement, la théorie de la relativité, ça a été écrit en 1905, on est en 1986, enfin au moment où il nous dit ça, hein. On est en 1986, tout le monde en parle, tout le monde évoque cette fameuse formule E égale MC2, mais en fait personne ne sait ce que c'est, et c'est quand même une avancée majeure dans les avancées scientifiques, et c'est un personnage majeur. Il serait bon, si vous voulez ne pas rester dans l'ignorance, que vous frottiez un petit peu à la chose. Et Einstein lui-même a écrit un bouquin pour vulgariser un petit peu sa théorie. En 56, il a écrit ça. Je vérifie en même temps. Il a écrit ça en 56, oui, je dis bien, pour justement vulgariser sa théorie sans avoir à se taper toutes les maths et toutes les formules et tous les trucs qui sont un petit peu secs pour le profane. Donc il explique assez simplement, finalement, que tout est relatif, et il explique ça avec un train qui passe, un mec qui est dans le train qui marche, un passant, non pas un passant, un spectateur ou une vache, si vous voulez, hein, qui est sur le talus et qui regarde le train passer.
C'est une vache.
Et c'est une vache. Et un rayon, deux rayons lumineux qui doivent se rejoindre au milieu de au milieu de tout. Voilà. Donc, sachant que il a été démontré par Monsieur Lorentz que la vitesse de la lumière était un absolu, absolu. Le problème se pose de savoir qui voit le rayon de premier, etc. Voilà quoi. Donc c'est tout à fait abordable, ça permet de comprendre la chose sans pouvoir l'appliquer, bien sûr. Hein, il n'est pas question ici, d'abord j'en ai pas les moyens de vous faire une démonstration ni scientifique, ni de physique, ni et puis voilà quoi. Mais ça vaut le coup de se pencher sur ce bouquin. Alors certes, c'est un truc qui est un peu sec. Hein, c'est pas un truc. Si on lit ça le soir pour s'endormir, ça endort. Mais sinon, ça c'est tout à fait intéressant. Il le dit clairement. Hein, il dit que il a. Je retrouve la page. Dans l'intérêt de la clarté, il m'a paru inévitable de me répéter souvent, sans me soucier le moins du monde, de donner à mon exposé une forme élégante. C'est dit. C'est sec. Faut se le taper, mais c'est envisageable.
Mais la répétition est un outil pédagogique qui a fait ses preuves d'ailleurs. Alors je voudrais juste rectifier hein, que la théorie n'est pas de 1905, mais de 1915. Nous avons reçu pas mal de coups de fil depuis que tu as commis cette coquille.
Si je peux me permettre, il y a la théorie de la relativité.
Alors on va passer à un autre.
1905 et générale 1915.
Très bien. Eh bien, 15 partout, la balle au centre.
Il y a une chose vachement intéressante à dire, enfin, ça n'engage que moi, en fait, sur la relativité d'Einstein, parce qu'effectivement, là, on l'aborde d'un point de vue scientifique, mais finalement, parce que si on vulgarise à l'extrême, on pourrait dire la théorie de la relativité, en gros, c'est tout est affaire de repères. Hein.
Exactement.
En fonction de l'endroit où tu te places, effectivement, enfin, tu as donné l'exemple du train qui est dans le bouquin. Mais finalement, au-delà de l'aspect scientifique, ça, c'est presque une philosophie de vie, quoi. On peut se dire que à chaque fois, dans un débat, dans un échange d'idées, en fonction de l'endroit où on se place, hein, on peut avoir une perception différente des choses.
Une vérité qui est autre que celle de celui qui est en face, tout
et
à fait.
Ouais. Ça ne m'étonne pas. Alors moi-même, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi-même, j'ai découvert ce bouquin par le biais de mon prof de philo en 85.
Ah bah voilà. On avait le même, peut-être.
Et ce qui est très intéressant, on peut se dire que s'il y avait plus de gens qui lisaient effectivement la relativité d'Einstein que le Capital de Marx ou le Coran ou je ne sais quoi, peut-être il y aurait un peu plus de paix dans le monde, peut-être que les gens seraient plus tolérants, plus auraient une façon d'apprécier les choses plus distanciée, plus tolérante.
Ou de voir une autre facette des choses en question, des événements en question.
Donc on sort du cadre scientifique, ça a vraiment une dimension philosophique qui est intéressante.
Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais.
À méditer, Varda, la relativité...
Ah oui, alors c'est la minute pour briller dans un vernissage au CCC. Alors, si on vous parle de relativité, pardon, vous pouvez citer Jacques Reda, hein, qui a écrit La physique amusante. Alors, c'est un recueil de poèmes, poésie scientifique. On peut dire qu'il remet au goût du jour la poésie scientifique. Et justement, dans sa préface, c'est important, les préfaces, ça fait toujours très savant, il parle justement de la relativité. Et il cite Einstein... Alors, je vais me faire le plaisir de vous lire un peu un bout de la préface, comme ça je pourrais dissimuler que je n'ai pas lu tout entier le livre de Reda. Alors, je cite « Que la circonférence est fière d'avoir deux pierres, que le cercle est heureux d'avoir pierre deux. J'ai appris cette formule de géométrie en cinquième, je ne l'ai jamais oubliée, et j'ai longtemps essayé d'en inventer de comparables pour la physique. Mais ces grands principes ne se laissent pas aussi aisément prendre à des vers de Mirliton, bien mémorisables, que le fameux E égale MC2 d'Einstein, puisque pour bien définir l'énergie, il suffit que l'on multiplie la masse par la célérité de la lumière mise au carré. Voilà.
Merci, merci Warda. On va faire notre deuxième pause musicale avec, bien sûr, We Are the Physics, un groupe qui est passé à Ocar il y a quelques années dans le petit chapiteau et qui est vraiment... avait carrément déménagé et qui, pour une fois, allie le physique à l'athlétique puisqu'ils nous disent « We can do athletics ». You can do athletics, 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 you can do athletics Et nous sommes de retour en direct sur Radio Béton 93.6. Indirect des chroniqueurs des poches sous les yeux qui aujourd'hui sont un peu avec de l'eau dans les yeux car nous ne sommes pas sur le lac.
Ah, c'est beau ce que tu dis, Vincent.
Ni sur la Gloriette. Non, non, nous sommes dans les studios de Radio Béton, donc pour une émission thématique savant fou, fou savant. Et là, on va aller effectivement en plein dans le savant fou, hein, l'île du docteur Moreau. Non, pas l'île du docteur Moreau, d'autres délires de ce type-là. Nous allons donner la parole à Olivier, hein, qui va nous parler de l'invention de Morel.
Oui, l'invention de Morel, c'est un très court roman qui fait à peine 100 pages, hein, qui a été écrit en 1940 par un auteur argentin qui s'appelle Adolfo Bioy Casares. Et qui nous propose de suivre les aventures d'un homme qui a dû s'exiler, qui a dû quitter son pays parce qu'il est recherché par la police. Alors on sait pas exactement ce qui lui est reproché. On croit comprendre à demi-mot que c'est des histoires politiques. Tout ça se passe du côté de l'Amérique du Sud. Et il va trouver refuge sur une île déserte. Pour échapper à la police, hein, sur laquelle il trouve une villa qui est abandonnée, qui a été construite quelques années auparavant. Et donc, dans un premier temps, il y a toute une partie où il essaye de survivre dans un milieu qu'on imagine hostile. Hein. Et puis un jour, il se retrouve nez à nez avec un groupe de personnes, hein, dont on ne sait pas d'où elles viennent, hein, comment elles sont arrivées sur l'île, hein, et qui ont une attitude extrêmement étrange. Donc dans un premier temps, évidemment, il se cache. Hein. Il pense que c'est des gens qui sont venus le chercher, qui vont le dénoncer, etc. Et puis petit à petit, il les observe de loin et il constate qu'elles ont un comportement vraiment très très bizarre. Elles disparaissent subitement, aussi subitement qu'elles étaient apparues. Et puis elles reviennent avec un rythme plus ou moins régulier. Et puis il se rend compte surtout que elles sont absolument indifférentes à sa présence. Hein. C'est-à-dire qu'il peut surgir devant elles en hurlant, elles ne réagissent pas. Et parmi ces personnes, il y a une jeune femme qui s'appelle Faustine dont il tombe éperdument amoureux, et pour tromper sa solitude, il se met en tête de la séduire, et pareil, à chaque fois qu'il va vers elle pour essayer de lui parler ou de lui signaler sa présence, elle reste totalement indifférente à lui. Et il se rend compte surtout que ce groupe de personnes, hein, qui revient à échéance régulière reproduit toujours les mêmes gestes, ils redisent les mêmes phrases, etc., comme des sortes d'automates. Et en cherchant un petit peu dans la villa, il découvre une machine. Il se rend compte petit à petit que finalement, ces gens sont des sortes de fantômes, des sortes d'hologrammes qui sont projetés par cette machine. Et cette machine, c'est la fameuse invention de Morel. Morel, c'est un type qui pour une raison qui n'est pas très très bien expliquée dans le livre, a eu l'idée d'inventer une machine qui enregistre les gens et qui les projette, hein, comme un disque, comme un DVD, qui les projette. Alors la machine là fonctionne sur l'île avec le rythme des marées, ce qui explique le côté cyclique de l'apparition de ces personnages. Hein. Et le temps que le personnage découvre tout ça, il étant amoureux de la fameuse Faustine, il décide de se caler à son rythme. Quand elle fait un geste, il l'anticipe puisqu'il l'a vu faire des dizaines de fois, donc il l'accompagne, etc. Et à la fin, il décide de rentrer lui-même dans la machine, transformer en hologramme, si on peut dire, hein, sachant que la subtilité de l'invention de Morel, c'est les gens qui sont filmés, qui sont enregistrés, meurent. Hein. Donc ils vivent éternellement sous forme d'hologramme, si on peut dire, mais ils perdent leur existence terrestre. Voilà. Donc le bouquin est écrit à la première personne. Hein. C'est le journal du personnage de fugitif. Hein. Et ce qui est assez troublant... Alors, dès les premières phrases, on voit qu'on va pas beaucoup se marrer dans l'invention de Morel. On voit que Casares, c'est pas Jojo la marade, quoi. C'est une écriture qui fait beaucoup penser à Borges, hein, donc qui est pas réputé pour être un auteur extrêmement drôle.
On peut pas dire.
Ouais. Mais on le suit, le personnage, dans toutes ses errances psychologiques, avec quand il arrive sur l'île, sa première Sa première démarche, c'est de trouver à survivre dans un milieu sauvage, à se nourrir, et puis après à tromper la solitude, à vivre seul, etc. Et puis quand les personnages apparaissent, du coup, dans un premier temps, il vit plutôt dans la peur, dans l'angoisse d'être rattrapé, puis de retourner en prison, où l'attend quand même une peine assez, assez forte, puisqu'il est condamné à mort. Et puis après, oui. Il y a cette...
Ça, c'est fort.
Oui, c'est un peu brutal. Après, il y a ce sentiment amoureux qui l'envahit, et puis le dépit de voir que ça l'élu de son cœur ne répond pas à ses avances, etc. Donc on suit tout ça. Tout ça est raconté à la première personne, donc on découvre tout cet univers par les yeux du personnage. Alors, dans le bouquin, le savant fou, pour raccorder avec le thème de l'émission, c'est clairement Morel. Hein. Donc, on voit qu'il s'inscrit dans une tradition du savant fou qui a bien conscience que la science permet de comprendre le fonctionnement du monde et puis qui décide comme ça de dépasser les limites, hein, là en l'occurrence en repoussant les limites de la mort et en tendant à l'immortalité.
Oui, parce que la finalité de son invention, Morel, c'est quoi ?
Bah, c'est pas très bien explicité dans le bouquin. Mmh. Ce qui est troublant, c'est qu'on comprend qu'à un moment, il a réuni un groupe d'amis dans cette ville-là, sur cette île, hein, et qui les a filmés, mais quasiment à leur insu. Mm-hmm. Donc, sans leur dire que, dans un premier temps, ils allaient crever, et dans un second temps, ils seraient comme ça, parce que la machine fonctionne avec le rythme des marées. Donc, dans un second temps, à chaque nouvelle marée, ils reviendraient pour revivre la même scène. Parce qu'évidemment, les personnages n'ont pas conscience d'être... voilà. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit Morel, qui lui-même est assez... assez séduit par Faustine. Hein. Donc on peut supposer que sa démarche est de dire Faustine se refuse à moi parce qu'il prend râteau sur râteau. Et pas de bol pour lui, en fait, c'est ça qui est filmé. Donc jusqu'à la fin des temps, on le verra se faire évincer par la dite Faustine. Et on peut supposer qu'il dit elle se refuse à moi, donc moi je la filme et comme ça jusqu'à la fin des temps, je resterai auprès d'elle. Ce qui est aussi la démarche finalement du narrateur lui-même. Donc c'est un bouquin qui est assez intéressant parce qu'il y a du suspense, il y a de l'aventure. Enfin, le suspense, je l'ai un peu éventé parce que je vous ai raconté toute l'histoire. Mais ça n'enlève pas le plaisir de l'écriture, etc. Et puis, il y a eu toute une réflexion. Finalement, le savant fou, honnêtement, c'est pas le personnage principal du livre. Le personnage principal, c'est forcément le fugitif. Il y a toute une réflexion sur la difficulté qu'il y a à vivre avec les autres, à trouver sa place avec les autres, hein, auprès des autres. Hein. Et on est vraiment dans... Roland Barthes disait le monde est une contrainte de partage. Et on est vraiment dans cette optique-là. Comment on fait pour partager un espace, partager du temps avec les autres, hein. Et c'est une question qu'on peut se poser tous à tout moment. Moi, je suis devant ce micro-là à faire une chronique certes brillante, mais je pourrais me dire est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait des choses encore plus intéressantes à dire, autant que faire se peut, et est-ce que je ne prends pas sa place, voilà.
C'est donc, une très très bonne question, Olivier.
C'est une question de relativité, encore.
Et encore une fois. Et qui pourra effectivement permettre à d'autres chroniqueurs, hein, qui malheureusement aujourd'hui ont eu un empêchement, comme on pourrait dire pudiquement, de venir nous rejoindre l'année prochaine à la Gloriette pour un nouveau numéro de ce direct des chroniqueurs des poches sous les yeux. Alors, Olivier, tu as choisi de ponctuer ta chronique par le groupe N. Alors, je ne suis pas germanophone, hein. Einstürzende Neubauten. Ja. Et donc, dur, pourquoi ?
Je ne m'attendais pas à cette question.
Très bien.
Mais puisque tu me la poses, je vais improviser une réponse. C'est un groupe allemand de rock industriel, hein, qui
m'étonne.
Pour le coup, c'est vraiment des savants fous. Leur science, c'est la musique. Et c'est le leader du groupe qui est Blixka Bargeld, qui est le guitariste de Nick Cave, accessoirement. C'est un type qui fait beaucoup d'expérimentation. Et là, c'est un groupe qui est à la limite parfois de l'inaudible, mais qui introduit alors des tronçonneuses, des bruits métalliques, des bidouillages absolument.
J'ai un peu revu un reportage sur Trax, sur justement le groupe dont je ne
dirai pas, pas germanophone.
Voilà, qui était assez délirant.
Ouais. Très bien. Et ben on écoute Snake de Ensurdende Nauboten. Oui, j'ai un peu coupé Ensurdende Nauboten, ils me pardonneront, Nick Kev avec lui. Nous allons donc poursuivre ce direct des chroniqueurs des poches sous les yeux en direct.
Pour un nom germaniste, tu te défends quand même.
En direct de la Radio Béton 93.6 et donc en direct des studios, malheureusement pour les auditeurs qui nous rejoignent, nous n'avons pas pu être à la Gloriette car le bateau était en train de se faire réviser. Donc nous sommes au pied sec.
Nous manquions de rustine pour le Zodiac.
C'est cela même. Et on a le plaisir de voilà nous arrêter un moment pour échanger avec Warda qui est la grande gagnante du prix Rock Attitude 2016. Voilà, normalement là il y a
voilà, je suis gênée maintenant, c'est malin.
Voilà. Normalement, il y a une foule de 4500 personnes à Jeun qui applaudissent et font du book, ouais, bon, du book diving, du book diving, ouais.
On met on a des bandes de off qui vont peut-être sortir alors,
voilà.
Ouais.
Bon, donc Warda, tu as donc gagné voilà le prix Rock Attitude pour ta nouvelle Alpha. Tu nous fais un pitch très court puisque on aura le plaisir de l'entendre, de l'écouter juste après.
Oui, alors bon, honnêtement, je m'attendais pas du tout à gagner ce concours parce que j'ai envoyé une nouvelle que j'ai écrite comme ça en une soirée parce que je trouvais ça très drôle en fait. Après le dîner, ça m'a fait marrer. Je me suis dit tiens, je vais essayer d'écrire un truc où je vais entasser le plus de clichés possible. Du coup, j'ai réussi, vous verrez, je pense, j'ai réussi à mettre les racistes, les militaires cons, j'ai réussi à mettre les trucs anti-femmes, j'ai réussi à caser les arabes, les noirs, je crois aussi. Et en fait, mon grand regret, c'est que j'ai pas réussi à mettre les gros. J'ai mis tout le monde sauf les gros, donc il manque.
Alors, qu'est-ce que tu as
trop de place,
qu'est-ce
peut-être.
Que tu as contre
voilà.
Qu'as-tu contre les gros?
Bah, rien du tout, mais je me disais, tiens, dans cette nouvelle, j'ai réussi à condenser tous les... Donc, les clichés, tous les gens, il y a les roues aussi, enfin tous les gens qui s'en prennent un peu plein la figure. Donc, c'était très drôle, en fait, ça m'a amusé, c'était un peu un exercice de style plus que vraiment une nouvelle pour gagner le concours. Ça m'a fait marrer d'écrire ça, et puis je pense que j'avais regardé Austin Powers quelques jours avant. Alors, est-ce qu'il y a un lien peut-être? Cela dit, j'avais regardé Docteur Follamour aussi quelques jours avant. Je pense que Austin Powers est très mésestimé et que le Docteur Follamour est très surestimé.
Je partage. Alors là, je cautionne, mais à 5000%, absolument.
Mais voilà, je pense que c'est ça, quoi.
Alors, il est quand même question de clonage.
Oui, voilà. Alors bon, maintenant, il faut que je dise des trucs intelligents.
Non, mais pas trop.
Pas trop, oui.
Pas non, trop mais... intelligent, parce qu'on est sur Radio Béton.
Merci. Je me disais, la barre est super haut. Mais en fait, bon, ça va. Et oui, donc ça parle de clonage, et je pense que ça montre aussi un peu une inquiétude de sous couvert de « on rigole bien ». Oui, quand même, qu'il y a des scientifiques, je pense, qui font un peu tout et n'importe quoi, parce que finalement, les personnages, que j'espère un peu drôles, sont quand même des salauds, quoi, faut le dire. Et du coup, ils s'amusent à cloner des êtres vivants, ils jouent avec. Et je pense malheureusement que ça existe déjà, oui, et que ça va exister, et voilà.
En parlant un peu de ton style, Warda, puisque en fait cette chronique, si elle a gagné, c'est pas forcément sur le fond, c'est aussi sur la forme, la façon dont tu captes l'attention du lecteur, hein, puisque t'as un procédé quand même qui réussit, c'est que tu commences ta narration, c'est une conversation qui est en cours entre deux protagonistes, et forcément le lecteur est obligé de courir après une intrigue qui a déjà commencé. Voilà. Et puis il y a aussi ces grands intermèdes qu'on va écouter tout à l'heure, où on a une espèce de CV comme ça, les tenants et aboutissants de la destinée de quelqu'un. Voilà, on voit deux quand même marqueurs. Alors, je ne fais pas partie du jury Rock Attitude, hein, j'ai découvert a posteriori ta nouvelle avec beaucoup de joie, parce que effectivement elle nous porte avec des procédés quand même un peu taquin.
Bah, ça me rassure, parce que j'ai des copains qui l'ont lu, qui m'ont dit « Oh là là, j'ai rien compris, franchement, chapeau, tu vas en venir. »
Alors, je confirme que je n'ai rien compris.
Merde.
Mais j'ai été captivé.
Bon, bah c'est déjà ça. Du coup, peut-être que je peux la présenter à la FIAC ou je sais pas quoi.
Très bien. Ouais. Eh bien, au CCC.
D'accord, au CCC.
D'accord. Ouais. Merci, merci Warda. C'est ton premier exercice littéraire, puisque tu dis j'écris. Moi, ça fait quelques années que je chronique. Jamais j'ai eu l'idée d'écrire. Voilà. Donc toi, s'agissant de toi, puisque c'est toi qui as la parole.
Oui, non, c'est que je pense que ça m'amuse. Je prends des histoires comme ça, j'en fais plein dans ma tête tout le temps, quoi. Et je me suis dit, tiens, pour une fois, j'ai osé mettre à écrit et l'envoyer.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir osé pour Radio Béton, et puis le prix Rock Attitude, hein, qui est fait en partenariat avec l'université François Rabelais et avec la bibliothèque, bien sûr, municipale de Tours. Et donc, eh ben, on va partager cette création radiophonique, qui est l'enregistrement de ta nouvelle Alpha.
Alpha, une nouvelle de Warda Muldawa. Avec le concours de Radio Béton, de l'Université François Rabelais et de la Bibliothèque municipale de Tours. Bureau obscur et très secret, dans un lieu insoupçonné du commun des mortels. Il y a plusieurs écrans immenses, des post-it sur toutes les surfaces qui s'y prêtent, couverts d'annotations incompréhensibles dans une écriture porcine. S'échappant d'un iPod sur enceinte, son léger et compressé, la belle Hélène d'Offenbach. Le colonel lappe son café deux ou trois fois, en aspire la mousse d'un mouvement de lèvres sonore. Puis, d'un air satisfait, se tourne vers Maxwell.
Aucune chance. Je vous trouve bien catégorique.
La tasse vient de se poser sur le bureau. Maxwell, que ses suctions caféières dégoûtent, avait détourné le regard. Au bruit de porcelaine sur le plateau de verre, il tourne à nouveau son fauteuil vers le colonel, d'un d'un mouvement de pied lent et calculé. Le colonel renifle d'un air sûr de lui et poursuit.
Vous pouvez élever le potentiel autant que vous voudrez. Avec l'état Alpha et S4, aucune chance d'émergence du clone.
Il y a de nombreux contre-exemples avec S4.
Le combat de coq est engagé. Resté debout, le colonel toise Maxwell, qui semble engoncé dans son fauteuil de bureau en cuir. Assis, Maxwell toise le colonel, qui semble engoncé dans son uniforme. Plissant légèrement les yeux, tandis que Maxwell remonte ses lunettes d'un index décidé, le colonel poursuit.
« Bien sûr. Trouvez-moi ne serait-ce qu'un exemple pertinent de sujet qui, cumulant Alpha et S4... »«
Je suis sûr que c'est possible. »«
Sans aucun auxiliaire bêta, a émergé ?»«
C'est toujours possible. » »«
Grâce à son unique potentiel, de façon totale et durable. »«
Faisons l'expérience. »
Tous deux dissimulent tant bien que mal le plaisir et l'amusement que cette perspective leur laisse espérer. Maxwell replace soigneusement sa mèche de cheveux roux. Le colonel voit, à juste titre, un affront à son crâne dégarni dans ce geste apparemment anodin. Il émet un claquement de langue, auquel répond un grincement de fauteuil.
« Vous aimez perdre à ce point. Pourquoi pas, ça peut être amusant. Je gagne. Vous arrêtez de m'emmerder avec l'arrosage de mon terrain de golf avec la réserve d'eau potable. Vous gagnez. Vous aurez cette satisfaction au moins une fois dans votre vie. »«
Vous êtes trop bon, colonel. » »«
Je vous laisse chercher les hôtes idéales, mon cher Maxwell. »
Du bout des pieds, Maxwell se fait rouler jusqu'à l'écran le plus proche.
La base de données recense toutes les demandes d'insémination artificielle à l'échelle de l'Union européenne. On peut trier directement tous les S4 et on se charge de leur fourguer un embryon Alpha HP.
Le colonel, prenant appui sur sa canne, se dandine jusqu'à l'écran et s'arrête à côté du fauteuil auquel il s'accoude.
Prenons plutôt un S4-2 ou S4-1. Avec un S4-4, ce n'est pas amusant.
Bon. On part donc sur un S4 léger à moyen, et on évacue les S4 lourds. Un pays de prédilection ?
On va prendre le plus banal, France, ville de taille moyenne.
J'ai un profil correspondant à Tours, au centre du pays.
Vous avez le profil de deux autres potentiels ?
Oui.
Avec la mine réjouie de deux adolescentes faisant les soldes en ligne, Maxwell et le colonel consultent les fiches transmises par les informateurs. Code, la gloire de mon père. Haute, bêta, S4-2. Taille moyenne, corpulence moyenne, yeux gris, cheveux châtain foncé, forte myopie. Enfant non désiré, il a failli être vendu à sa naissance à un riche couple de commerçants juifs stériles qui louait un fonds de commerce à ses parents. A passé toute son enfance en pension chez des religieuses, anciens de l'armée de terre, plusieurs années au Tchad. Orthographe et culture générale indigente, recalé 4 fois au baccalauréat, s'est engagé à l'issue de son service militaire, puis a quitté l'armée suite au décès de son grand-père maternel. L'héritage lui a permis de monter un bureau d'études dont la compétence est difficile à déterminer. Il s'en sert vraisemblablement pour détourner de l'argent. A fait plusieurs fois le coup de l'insolvabilité, militant d'un parti d'extrême droite et directeur d'une chasse de parvenus. Misogyne, coureur de jupons et raciste. Haine particulière pour les maghrébins et les personnes à peau noire. Fort mépris pour la classe ouvrière, se considère comme appartenant à la classe des patrons et les intellectuels. Nombreuses arrestations pour conduite en état d'ivresse et excès de vitesse. Son amitié avec le préfet lui permet jusqu'à présent d'échapper à toute condamnation. Dépourvu de conscience morale, d'empathie, humour exclusivement ordurier, raciste, à connotation sexuelle, pas de second degré, inaptitude au raisonnement par l'absurde, difficulté à l'abstraction. Prend plaisir à humilier et maltraiter plus faible que lui. Obséquieux avec toute personne qui l'identifie comme un supérieur hiérarchique. Aime excessivement l'ordre et l'hygiène, se croit au-dessus de toute loi, règle ou règlement, aime l'argent qu'il considère comme le pouvoir absolu et un but en soi, aime le tape à l'œil, phase d'humeur haute où il dépense des sommes colossales pour des objets qu'il abandonne par la suite, considère les femmes comme des objets au service des désirs et des besoins masculins, a engrossé plusieurs de ses maîtresses, dont la secrétaire du bureau d'études, la charcutière du quartier, la femme d'un de ses employés, ont tout avorté en découvrant qu'aucune reconnaissance de paternité ne serait possible, ni vie de couple. Une, pourtant plus tenace que les autres, a déjà mis au monde un fils non reconnu. C'est elle qui fait la demande d'insémination. Code. Le château de ma mère. Haute Alpha. Tar Alpha. S4-2. Taille moyenne, surpoids moyen, yeux marrons, cheveux châtain foncé, légère myopie. Femme ayant une quasi-anovulation. A eu recours au service de procréation assistée pour sa première grossesse. Elle était volontaire pour prendre un traitement novateur dopant la fertilité. Convaincue qu'un deuxième enfant ferait naître chez le père du premier un sentiment de paternité.
prête à tout pour avoir ce deuxième enfant, y compris l'insémination artificielle, y compris mentir sur le fait que le père n'a vu son fils que deux fois depuis sa naissance, y compris demander une mutation du sud de la France où elle a son réseau familial pour rapprochement familial. Secrétaire dans un service public, vie sociale pauvre, peu d'intérêt pour la vie culturelle et les sorties, bien qu'elle se plaise à se dire littéraire, qu'elle a étudié le latin pendant 7 ans, ainsi que le russe. Orthographe, grammaire et syntaxe excellentes, un certain humour, trouve l'abstraction ennuyeuse et pédante, souhaite exclusivement un deuxième garçon, comportement puéril, humeur changeante, capricieuse, rêve de grandeur, Scarlett O'Hara, survalorise la beauté féminine, futile et superficielle, minaude beaucoup, aime les tenues voyantes et les accessoires, extrêmement narcissique, bien que d'un physique quelconque, se complaît dans des rôles de victime innocente, se plaint à tout propos, thème familial, se définit comme un enfant non désiré, il ne me voulait pas, qui a toujours manqué d'amour, à laquelle sa mère a toujours préféré son frère cadet. Thème scolaire, était la plus jeune de sa classe à l'école et mise à l'écart. Thème social, rejetée par tous en tant que fille-mère. Toutes ses rêveries mélancoliques sont très théâtralisées, très excessives, voire fausses. Adepte des plans sur la comète et d'une secte, est son principal centre d'intérêt et sujet de conversation. Mesquine et jalouse, volontiers médisante et de mauvaise foi, naïve, impressionnable et crédule. S'est fait arnaquer à plusieurs reprises. Versant dépressif, revendique beaucoup mais cède facilement. Forte inertie, agressivité passive. Le colonel ronronne intérieurement. Maxwell aussi, de droite à gauche, dans son fauteuil.
Bon, je crois qu'on tient le haut du panier. Pas besoin de chercher plus loin. Vous me faites un embryon TAR alpha HP. Pour le labo, c'est XX-140. Précisez-leur, la dernière fois, ces abrutis ont interprété TAR alpha par triple X. Quant à HP, ils vont nous pondre un schizo ou se demander si l'imprimante est en panne, alors qu'ils clonent des neurones à longueur de journée. Quelle bande de branques.
Impassible, Maxwell poursuit.
Entendu, colonel. Pensez-vous à d'autres caractéristiques?
Déjà, avec une chatte et un cerveau fonctionnel, notre clone va en chier. Mais après tout, amusons-nous un peu. Tiens, collez-lui des yeux verts et des cheveux roux.
Maxwell fait mine de ne pas relever cette perfide allusion à sa chevelure cuivrée. Après tout, cette bonne guerre. Un partout, pour les cheveux.
Vous y allez un peu fort là quand même, ça fait vraiment fi du facteur.
Où est le problème? Je vous rappelle que vous mettez votre amour propre à couper, que le clone va s'en sortir à coup sûr malgré ses chromosomes XX, ses aptitudes exceptionnelles dans un environnement familial S4.2.
C'est vrai. Mémoire auditive? Synesthésie?
Allez-y, montrez-moi la gueule des heureux parents. Ah oui. Vous pouvez lui mettre des fossettes et des taches de rousseur?
Même un grain de beauté sur la fesse gauche.
Vous pouvez à coup sûr en faire une belle femme.
Non, mais je peux l'exempter de cellulite ou lui en coller plein.
Vous ne pouvez pas déterminer sa personnalité?
Pas encore, mais je peux vous garantir que le clone a de fortes chances de présenter un syndrome dépressif majeur dès son plus jeune âge.
Un suicide avant l'âge adulte? Vous voulez vraiment le perdre, ce pari?
Il pouffe, puis tout saute pour se ressaisir. Maxwell se tient raide comme la justice dans son fauteuil, remonte ses lunettes et poursuit.
Je parie justement qu'elle ne crèvera pas. Myopie? Migraine? Allergie aux œufs ou au gluten?
Non, laissez tomber les allergies. Je suppose que la mère ne cuisine pas et achète des plats préparés bas de gamme, non?
Oui, on laisse tomber. Le clone passera par la première année, sinon et un peu d'exotisme?
Demande Maxwell, avec une légère minauderie.
Je vous vois venir. Non, pas de petite négresse. On tient à éviter l'accident de chasse ou de la route au père. Merde, il a quand même servi sous les drapeaux. Cela dit, ce serait fandard. On peut pas mettre juste quelques petites touches?
Des yeux bridés?
Et de bonnes fesses! Ils ont quel genre d'ancêtres, nos deux bédouins?
Autriche et Grèce pour le père.
Français de souche, hein?
Maxwell sourit, croque un bonbon au miel, remonte ses lunettes du bout de l'index et poursuit.
Et la future maman, pied noir, Pologne, Hongrie.
Bon, ça va. Il y a forcément eu des roukmouts là-dedans.
Statistiquement aussi probable qu'un pied beau ou la polio.
Répond Maxwell du tac au tac, dans un sourire acide, croquant doucement. Cette dernière sortie suscite un étrange sentiment de fierté et d'admiration chez le colonel, qui prend appui des deux mains sur sa canne, passe sa langue sur ses lèvres et poursuit.
Et vous pourrez l'inséminer quand, notre donjon?
Voyons.
Savourant intérieurement cette victoire oratoire, Maxwell se jette en arrière dans son fauteuil qui couine, prend un air absorbé et pianote sur ses lèvres du bout de ses doigts. Puis...
Une quinzaine de jours, pas moins?
Entendu. Rendez-vous dans 15 jours.
15 ans plus tard. Le colonel entre dans le bureau de Maxwell. Il est en chaise roulante. Musique de fond, les oiseaux dans la charmille, conte d'Hoffmann. Il fait un signe de tête à Maxwell, roule jusqu'à la machine à café, choisit une dosette corsée, lance l'appareil, regarde le liquide brun et fumant couler dans la petite tasse de porcelaine qui a perdu son anse, hume le nectar. Il roule jusqu'à Maxwell, tenant la tasse entre deux doigts, actionnant le fauteuil de l'autre main, fait un créneau puis lui tend la main sans café. Maxwell saisit cette main et tournant légèrement son fauteuil.
Ça fait bien longtemps que je vous ai pas vu, cher colonel. Tout marche comme sur des roulettes ?
Bon pied, bon œil, mon cher Maxwell.
Répond le colonel en aspirant exagérément la mousse du café. Ayant perdu l'un et l'autre dans une attaque terroriste du laboratoire il y a 6 ans, Maxwell reconnaît que le colonel n'a rien perdu de son talent. Vraiment, il ne rate pas une embuscade. Maxwell poursuit.
Donc, Alpha S4-2 fête aujourd'hui ses 15 ans. Comme prévu, elle est détestée par toute sa famille, n'a aucun ami de son âge, rêve de se teindre les cheveux, s'ennuie du soir au matin, ignore tout de ses capacités puisqu'elle ne peut les développer nulle part. Suicidaire depuis l'âge de 4 ans, crise d'adolescence à 9 ans, n'a aucun projet d'avenir car une conscience aiguë de cet art Alpha et S4-2. Nos infiltrés ont inventé de justesse plusieurs signalements aux services sociaux.
Bon, j'ai plutôt gagné, non ?
Non. Elle est toujours en vie. D'ailleurs, vous aviez remarqué que son frère aîné est blond aux yeux bleus et parle russe dans son sommeil ?
15 ans plus tard. Le colonel apparaît sur un écran géant, derrière le fauteuil légèrement avachi de Maxwell. Musique de fond, la folie, dans Platé, de Rameau.
Alors là, c'est le pompon. Ne me dites pas que vous n'aviez pas prévu le coup. Ministre de l'enseignement et de la recherche, chef de file du parti féministe et antimilitariste. Vous l'aviez fait exprès.
Maxwell plisse les yeux, croque un bonbon, sourit légèrement. Il enfonce simultanément les touches S et C de son clavier pour faire tourner son fauteuil à 180 degrés. Face au colonel, plus chauve que jamais et bardé de pins dorés, remettant soigneusement sa mèche de cheveux grisonnants, il répond d'une voix fluette.
Non, mais je lisais sur Nick aux chiottes à l'époque d'activation de l'embryon. Bon, maintenant que j'ai gagné, qu'est-ce qu'on fait ?
Alpha, une nouvelle de Warda Muldawa. Avec le concours de Radio Béton, de l'Université François Rabelais et de la Bibliothèque municipale de Tours.
Suite et fin de notre émission en direct, les chroniqueurs des poches sous les yeux.
Déjà,
oui. Donc, en direct des studios de Radio Béton 93.6. Vous venez de partager avec nous la nouvelle Alpha de Warda Muldawa, qui a donc remporté le prix Rock Attitude 2016. Applause.
Amazing. Standing ovation.
Voilà. Et donc suite et fin. Alors je ne quitterai pas l'antenne. Non, je ne rendrai pas l'antenne avant de vous avoir signalé pour soutenir Radio Béton et pour surtout mettre en valeur les groupes qui étaient prévus dans la prog et qui ont donné qui ont envie de se montrer malgré l'annulation du festival. Donc à 15h à Gentiana, justement, LVOE vous fera profiter de son psyché beat trot. La troupe de la Smala All Star sera au Globetrotter avec ODN, Higher Light and Sanka, Day Oys, Hancock et Mako. Donc c'est à 17h au Globetrotter rue de Suède. Et puis ça m'a bien fait kiffer sur la programmation. Frankie Goes to Pointe-à-Pitre à 19h au Winchester rue du Commerce. Donc dans tous ces
ans pour faire sécher toute cette flotte.
Voilà, il nous faut du soleil. Au Globetrotter comme au Winchester, il y aura une cagnotte et des reversements de vos consos pour Radio Béton et surtout pour le festival au quart de tour. Au quart de tour is not dead. Donc on compte bien évidemment sur vous pour partager en groupe le plaisir d'écouter de la musique live et de faire en sorte que le festival au quart de tour puisse connaître une 32e édition. Je ne quitte pas l'antenne non plus sans avoir remercié JB qui a fait la mise en onde de la nouvelle. Et puis remercier nos intervenants. Je vais commencer par les hommes. Jimmy, Olivier et finir par Warda. Merci Warda d'avoir osé franchir le Rubicon et être venu jusqu'à la rue Maginot, l'avenue Maginot dans les studios de Radio Béton. À très bientôt pour un nouveau direct ou un prochain direct des poches sous les yeux. Sinon, n'oubliez pas les chroniques de Radio Béton trois fois par semaine à 7h-5, 1h-5 et 6h-5 ou bien sur notre page Facebook et sur nos sites. Merci Maïlis pour la technique. Bon week-end à tous.